Je vous invite à tourner dans votre Bible dans le livre des Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Nous lirons le verset 1 à 14. Théophile, dit Luc, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, car il n'a pas fini, même s'il est parti. Le livre des Actes parle de ce que Jésus a continué à faire. Les évangiles parlaient de ce qu'il a commencé à faire. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux, donc aux apôtres, aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparu pendant 40 jours. En parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, ça va être en fait 10 jours, mais ils ne le savent pas, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ils ne comprennent pas que les choses ont changé et que la seule Israël qui reste, c'est un peuple international. Mais ça, ils ne comprennent pas encore. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ce n'est plus Israël, c'est les extrémités de la terre qui est le point focal. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs, donc des anges, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, c'est là que tout ça s'est passé, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Nous allons poser quelques questions au sujet de cette glorieuse ascension de notre Seigneur Jésus-Christ vers le Père, à celui qui m'a envoyé, dit-il, pour faire sa session, pour siéger à la droite du Père jusqu'à ce qu'il revienne. Première question. Où est-ce que l'ascension a eu lieu? Le texte nous a parlé du mont des Oliviers. Donc, nous voyons un endroit entre Jérusalem et Béthanie, qui se trouve à quelques 3-4 kilomètres de Jérusalem, quelque part dans les collines en face de Béthanie. Jésus fut enlevé par le Père. Luc, en fait, est le seul évangile qui parle véritablement de cela. Dans le chapitre 24, il finit en disant ceci, écoutez simplement, « Et les emmena jusque vers Béthanie, en face de Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Donc, Galilée, au nord d'Israël, c'est là que Jésus fait une rencontre avec tous ses disciples. Il leur a dit à sa résurrection, « Vous devez aller en Galilée, me voir là. » Nous pouvons bien comprendre parce que en Galilée, loin de la ville de Jérusalem où il fut crucifié, plus en sécurité, c'est un lieu un peu plus sûr de réunir quelques 500 personnes. Comme l'apôtre Paul nous dit que 500 l'ont vu ressusciter et sans doute dans cette rencontre qu'il a désignée en Galilée. C'est là que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Mais Jérusalem, c'est là où les hommes, les Romains, les Juifs, nous tous si nous avions été là, ont crucifié le Fils de Dieu. Ont condamné le Fils de Dieu et là, c'est là qu'il fut ressuscité, c'est là que Dieu l'a justifié, celui que nous avons condamné. Et c'est là qu'il va monter au ciel victorieux, en face de Jérusalem. Donc probablement, il s'entretenait avec eux, peut-être dans cette même chambre haute où ils étaient la nuit avant sa mort, on ne sait pas. Mais sans doute ils étaient ensemble et comme cette soirée-là avant sa crucifixion, ils commencent ensemble dans la pièce et Jésus dit « Levons-nous, allons » et il les amène dans cet endroit en face de Béthanie où devant leurs yeux il fut enlevé. Deuxième question. Quand est-ce que l'ascension a pris place? Nous lisons dans notre texte, dans le verset 3, « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours. » Donc c'est à la fin de 40 jours après sa passion que Jésus est enlevé, qu'il y a son ascension. Mais attention, cette ascension-là n'est que son ascension formelle, publique et définitive. Ne pensez pas que Jésus n'est pas encore monté au Père. Il est monté au Père le jour de sa résurrection. Il dit à Marie, « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté à mon Père. » Mais le soir, il dit, « Touchez-moi aux disciples. Voyez que c'est moi. » Où est-ce que Jésus était entre toutes ces apparitions aux disciples pendant 40 jours? Ben, bien sûr, il est déjà avec le Père. Il avait dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Et il n'est pas étranger du paradis pendant ces 40 jours. Mais ce que nous appelons l'ascension, c'est la montée publique définitive et formelle du Fils de Dieu auprès, le départ définitif du Fils au Père jusqu'à ce qu'il revienne pour terminer notre histoire, nous l'espérons bientôt. Pourquoi est-ce que c'est après 40 jours? 40 dans la Bible est toujours un temps d'épreuve. Israël a été tenté, éprouvé dans le désert pendant 40 années. Jésus doit être tenté, éprouvé dans le désert pendant 40 jours pour prouver qu'il est l'homme saint et qu'il ne va pas céder au Satan. Moïse, quand il va chercher les 10 commandements, il reste 40 jours auprès de Dieu et Israël ne sait pas ce qu'il fait. C'est un moment d'être éprouvé. Est-ce qu'ils vont patienter? Non, ils vont créer un autre Dieu, un veau d'or, n'est-ce pas? Et pendant 40 jours, les espions ont regardé le pays de Canaan avant de revenir faire le rapport. Et ici, le texte nous dit dans le verset 3, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, un temps de épreuve ou de preuve. Jésus a commencé son ministère comment? Par 40 jours d'épreuve pour prouver qu'il est l'homme saint. Il finit son ministère sur la terre par 40 jours de preuve, se montrant à ses disciples, leur donnant de plusieurs manières des preuves indéniables qu'il est véritablement ressuscité et qu'il est glorifié, qu'il n'est plus mortel, qu'il a vaincu lui d'une manière mystérieuse par sa mort à la croix pour le péché. Il a en fait vaincu et détruit la mort elle-même vis-à-vis de son pouvoir sur lui. Mais il y a une grande différence entre les 40 jours au début du ministère de Jésus, les jours de tentation dans le désert, et les 40 jours à la fin, les jours pour se montrer aux disciples avant de monter au Père. Par exemple, dans les premiers 40 jours dans le désert, Jésus est conduit, mené dans le désert par le Saint-Esprit. Il doit y aller. Maintenant, dans ces derniers 40 jours, il n'a aucune limite de temps et d'espace. Il vient, il va comme il veut. On le voit, on ne voit plus. Dans les premiers 40 jours dans sa tentation, il a faim. Et il ne peut pas manger. Changer cette pierre en pain lui est interdit. Dans les derniers 40 jours, il n'a aucun besoin de manger. Quoi que ce soit, jamais. Mais pourtant, il mange avec les disciples. Dans les premiers 40 jours, Satan le tente. Prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai le royaume du monde parce qu'ils m'ont été donnés. Et Jésus refuse. Maintenant, dans ces derniers 40 jours, il dit aux disciples, tout pouvoir sur le ciel et la terre, toutes les nations m'ont été données. Les choses ont beaucoup changé et dans ces 40 jours, les disciples voient tout cela et ils voient la puissance de sa résurrection. C'est pour cela qu'il fallait que 40 jours se passent, qu'ils soient complètement sûrs. Mais attention! Dans les apparitions de ces 40 jours, Jésus ne paraît pas devant ses disciples dans la plénitude de sa gloire. Ils n'auraient pas pu supporter maintenant ce qu'il est. Et ils auraient peut-être questionné, est-ce que c'est le même Jésus qui était avec nous avant? Ou est-ce que c'est notre humanité? Est-ce qu'il a toujours? Ou est-ce que notre humanité, il ne possède plus. Donc, il est venu vers eux dans une forme, dans une manière qu'ils pouvaient voir. Bien sûr, il n'a pas perdu son humanité. Bien sûr, cette humanité est réelle, permanente, intacte, même si elle est glorifiée et changée. Troisième question. De quelle manière est-ce que Jésus est monté au Père? Et nous lisons dans les versets 6 à 9 ceci. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et puis le verset 9, après avoir dit cela, c'est-à-dire les derniers mots de sa bouche, c'est ces mots de la grande commission, allez dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle aux hommes. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Jusqu'ici, pendant 40 jours, il vient, il s'en va, on le voit et il disparaît subitement. Mais cette fois, pas du tout. Cette fois, la disparition est complètement différente. Il disparaît physiquement, lentement, graduellement, et pas dans n'importe quel sens. Il est enlevé au ciel. Il va au Père. Pour que ce soit clair pour eux que nous avons ici un départ différent, définitif. Il s'en va maintenant auprès du Père. Il quitte ce monde et ses contraintes. Il laisse les disciples avec une charge, un ordre, une promesse et une bénédiction. La charge, c'est que vous devez aller prêcher la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui sauve les pécheurs dans toutes les nations, à tous les hommes, de toutes les langues, de toutes les cultures. Tous sont aimés et appelés. Et ils doivent savoir. Ils doivent savoir aujourd'hui. Ça, c'est la charge. Si jamais il semble que Jésus tarde, quand est-ce qu'il va venir? Quand? Ben, nous sommes dans la même position des disciples qui... Est-ce que c'est maintenant que tu veux rétablir le royaume d'Israël? Et si nous tombons dans ce même piège, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas nous occuper des temps qui sont dans l'autorité du Père. Mais nous devons nous préoccuper de la charge que nous avons. Si le Christ revient demain, et c'est possible, aujourd'hui, nous devons annoncer l'Évangile. Et la promesse du Saint-Esprit nous donne le courage que ce n'est pas nous simplement qui essayons de convaincre les âmes, c'est Dieu l'Esprit qui ouvre le cœur le plus dur quand il le veut à nous d'annoncer tout simplement le message. Et la bénédiction. La bénédiction n'est pas dans Actes, mais vous l'avez entendu dans Luc. Il levait les mains et pendant qu'il les bénissait, c'est tellement formidable. Il est comme ça avec vous. Il est comme ça avec moi. Il voulait sciemment que la dernière image visible que les disciples aient de lui, que nous ayons de lui, c'est le Seigneur qui bénit. Et j'en dis qu'il était plein de grâce et de vérité, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Et même le dernier moment où il partait, il est en train de les bénir. Ça, c'est un vrai message pour nous. Nous vivons sur la bénédiction constante du Fils de Dieu. Ça veut dire que la faveur de Dieu, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Quand vous allez bien, quand vous péchez, la faveur de Dieu est pour vous, sur vous, afin de vous corriger, vous convaincre, vous amener à vous repentir et vous changer. Mais jamais le chrétien n'est sous la malédiction. Vous êtes sous la bénédiction de Dieu par Jésus-Christ. Voilà, il dit lui-même que en cette bénédiction, nous devons comprendre qu'en partant, nous ne perdons rien. C'est pas comme si sa faveur est interrompue ou distancée maintenant. C'est plutôt qu'en partant, sa manière de nous bénir est élevée, atteint son point culminant. C'est pour cela que vous avez entendu Pierre qui disait que Jésus dit: Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il habitera en vous, bénédiction constante des ressources divines. Quatrième question. Comment est-ce que Dieu a révélé à ses disciples de quelle sorte de départ il s'agissait? Ils l'ont vu, mais voir un événement et comprendre